Alors ça, c'est la musique que vous reconnaissez maintenant très bien, qui me permet d'accueillir un autre collaborateur qui a affronté la patinoire du matin. Merci François de Beaulieu. Vous aviez des crampons ?
Pas de crampons. Bonjour Clotilde. Et on peut... comment faire pour ne pas venir ? C'est un petit peu ça que j'ai envie de dire ce matin. Donc,
c'est gentil.
Oui, alors on va braver le froid. Et quand il y a du verglas, on brave le verglas aussi. Je suis heureux d'être ici, évidemment, ce matin avec
moi
vous.
Moi de même, et je vous salue également, François de Beaulieu. Vous avez déclaré quelque chose qui a fait un petit peu de remous hein, sur Facebook, et parce que vous voulez nous ouvrir des portes un peu plus heureuses que les portes que nous avons parfois l'habitude d'ouvrir, surtout dans les journaux. Est-ce bien cela ? Est-ce que je vous coupe l'herbe sous le pied ?
Non, pas du tout. En fait, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler un peu plus abondamment la semaine dernière.
Okay.
Vous étiez à Cuba et vous avez manqué ça, ma chère Clotilde.
Je ne leur avais pas dit où j'étais, maintenant ils savent.
Ah. Bien. Alors,
c'est pas grave, ça n'a aucune espèce d'importance. Et jamais vous dire une chose, c'est plus facile de marcher dans du sable mou que sur des glaces dures. Allez François, je vous laisse aller.
Ce que j'ai simplement expliqué la semaine dernière, c'est qu'effectivement, j'avais baptisé cette chronique que je partage avec vous tous les lundis matins, et en l'appelant « Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde ».
J'adore.
Parce qu'effectivement, c'est un défi que j'ai proposé, que je me suis proposé en fait, qui consiste à creuser, à chercher et à trouver des innovations, des initiatives qui, ici ou ailleurs, nous permettent de réfléchir autrement, de respirer davantage et puis de penser qu'effectivement, il y a des lendemains meilleurs. Alors aujourd'hui, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde et je vous emmène en Ardèche, en France, à la rencontre d'un homme que l'on pourrait appeler un lanceur d'alerte, pour reprendre l'une de ces expressions que l'on rencontre fréquemment. Mais je pense très honnêtement qu'il est bien au-delà d'un lanceur d'alerte. On pourrait l'appeler plutôt un semeur d'espoir. Il s'appelle Pierre Rabhi. Il a consacré l'essentiel de sa vie à non seulement parler d'agroécologie, à l'expliquer, à l'enseigner, mais il l'a pratiqué et continue de la pratiquer aujourd'hui encore. Il passe effectivement l'essentiel de son temps sur le terrain à la mettre en pratique, là où on lui demande, là où il le faut. Alors un article qui est en fait paru l'automne dernier à l'occasion de la sortie d'un livre qui s'intitule « L'agroécologie, une éthique de vie ». Cet article nous permet de découvrir l'homme et une approche différente de l'agriculture. C'est ce que je vous propose de partager ce matin.
D'accord.
L'article est signé de Perico Legas. Il est paru sur le site de marianne.net. Le titre de l'article est déjà en lui-même une interrogation et même une provocation. Quand Pierre Rabhi explique comment sauver le monde, voilà donc comment commence cet article, et il poursuit. La première mission de l'agriculture n'est pas de produire, mais de nourrir, ce qui est très différent. Célèbre pour son engagement en faveur d'une éthique de consommation respectueuse et de l'homme et de la planète, l'agronome prédit le chaos rapide si persiste cette forme de croissance. Il s'agit donc d'un cri d'alarme, d'une lucidité glaçante. La terre. Il est des mots qui se suffisent à eux-mêmes pour décrire le réel. Mais si on y regarde de plus près, la terre, c'est à la fois le sol, cultivable, et la planète. Tous les deux portent le même nom. À une majuscule d'écart, c'est effectivement le même nom. Nous devrions être plus attentifs à ce genre de symboles. Or la terre, elle se meurt. Pierre Rabhi résume ainsi. Si nous ne préservons pas ce qu'il reste de la mince couche de terre arable d'une quarantaine de centimètres à laquelle nous devons la vie, le genre humain disparaîtra. Et il précise, avec l'ère de la technoscience, de l'industrie lourde, de la productivité, de la marchandisation sans limite de tout ce qui peut avoir une valeur, on ne voit plus dans la terre, dans les végétaux, dans les animaux, qu'une source de profit financier. Énumérant les fléaux consécutifs à cette financiarisation de la terre, le philosophe pointe les effets dévastateurs de cette logique. Le bilan économique, écologique et social est loin d'être positif. Il est même dramatique. On assiste à la destruction de l'humus, des sols, de la vie. On assiste à la pollution des eaux, à la perte de la biodiversité domestique, animale et végétale, à la disparition des vrais paysans, de leur savoir-faire et de leur culture. On assiste à la dévitalisation de l'espace rural, à l'avancée de la désertification et enfin à la manipulation et au brevetage des semences. Par ailleurs, ce mode de production agricole se révèle être le plus onéreux, le plus vulnérable et le plus dépendant de toute l'histoire de l'agriculture. Saviez-vous, Clotilde, qu'avec les pratiques inspirées de l'industrie, plus de 15 000 litres d'eau potable sont nécessaires pour produire un kilo de viande.
Ah oui, effectivement, ce sont des chiffres qu'on lit à droite et à gauche qui nous font mal sur le coup, puis qu'on oublie, hein, c'est terrible.
Il faut près de 2 tonnes de pétrole pour fabriquer une tonne d'engrais et jusqu'à 10 calories d'énergie pour obtenir une seule calorie alimentaire. Voilà donc où mène cette opération obstinée qui consiste à transférer le maximum d'énergie humaine vers l'industrie en produisant avec le minimum d'agriculteurs. La terre est vivante et elle ne peut donc subir toutes les exactions violentes sans de graves conséquences pour les générations à venir. Alors, une fois cette prédiction acquise, Pierre Rabhi lance un formidable défi en proposant un remède à ce diagnostic. Et il s'agit donc de l'agroécologie. Qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui associe l'agronomie à l'écologie, c'est-à-dire le travail de la terre dans le respect de l'environnement.
Oui.
Plus qu'un programme et une méthode, plus qu'un processus et une vision, l'agroécologie est une éthique de vie.
Mais ça se fait déjà, ça, non ? Ou pas ?
Absolument. Pierre Rabhi est à la fois le chantre de l'agroécologie, celui qui en a fait la promotion depuis plus de 30 ans, mais aussi celui donc qui l'a concrétisé en mettant ses mains dans la terre.
Oui.
Alors, voici par exemple quelques-uns des éléments, et je poursuis la lecture
D'accord,
de cet article.
Bien sûr.
En s'appuyant sur un ensemble de techniques inspirées des processus naturels comme le compostage, le non-retournement du sol, l'utilisation des purins végétaux, les associations de végétaux, l'usage des semences libres, reproductibles et transmissibles de génération en génération, l'agroécologie permet ainsi aux populations de reconquérir l'autonomie, la sécurité, la salubrité, tout en régénérant et en préservant leur patrimoine nourricier pour les transmettre vivants et même améliorés aux générations suivantes. Alors, voilà succinctement ce que raconte ce petit ouvrage magistral, fondateur, qu'il faudrait distribuer dans les facs et les écoles.
Ah oui, hein.
Je rappelle le titre, l'agroécologie, une éthique de vie, c'est signé par Pierre Rabhi, c'est édité aux Actes Sud, 80 pages, un tout petit ouvrage, mais qui dit beaucoup de choses. Alors, si nous avons encore une minute
Nous avons vraiment une minute ou deux.
J'aimerais poursuivre parce que l'article est intéressant. L'homme est évidemment beaucoup plus intéressant encore. Et ce que je trouve très intéressant, personnellement, dans tout ça, c'est que l'homme n'est pas seulement, effectivement, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui enseigne, mais c'est un homme qui a été porté la bonne parole de façon très concrète. Il a traversé, sinon la planète, de nombreux pays où il est allé montrer concrètement comment on pouvait, effectivement, mettre en place l'agroécologie et, en relevant ses manches, effectivement, montrer à des paysans comment ils pouvaient effectivement le faire et en vivre. Alors, on l'a vu, évidemment, dans les pays d'Afrique du Nord, il est né lui-même en Algérie, mais on l'a vu au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, on l'a vu dans d'autres pays d'Afrique, au Togo, au Bénin, en Mauritanie, au Niger, mais également ailleurs, je pense à la Palestine, la Pologne, l'Ukraine. Donc, c'est un homme qui a su matérialiser et concrétiser et dépasser effectivement le stade expérimental de l'agroécologie. Ce qui m'intéresse également chez lui, c'est que l'agroécologie n'est pas seulement l'agriculture revue et pensée, c'est l'agriculture pensée différemment parce qu'on peut vivre différemment. Et je le cite à nouveau, Pierre Rabhi nous dit « On peut manger bio, on peut recycler son eau, on peut se chauffer à l'énergie solaire, mais on peut aussi continuer d'exploiter son prochain. » L'agroécologie doit être une alternative sociale. Et, comme il le rappelle lui-même, l'homme a besoin de la nature. Mais la nature n'a pas forcément besoin de l'homme.
Ah oui. Oui.
Alors, je voudrais, si vous le permettez, conclure mon intervention ce matin, Clotilde, en partageant cette citation. On l'associe à un Indien du Lakota, un Indien Lakota, pardon. Et cette citation est la suivante. Il n'y aura pas la paix sur Terre tant qu'on n'aura pas fait la paix avec la Terre. Voilà pour conclure mon intervention de ce matin, Clotilde.
Merci beaucoup, François de Beaulieu, qui, voyez-vous, peut se passionner pour beaucoup de choses dans la vie dès l'instant que, encore une fois, la porte qu'il nous ouvre est toujours une porte remplie, pas d'un optimisme exacerbé, exagéré, mais simplement une ouverture sur autre chose que du moche, que du mauvais, que du laid. Moi qui lis les journaux tous les matins, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup dans les journaux. Alors ça fait du bien, ça fait du bien. Je vous remercie beaucoup. Vous savez, il y a une année, j'avais proposé, parce que c'était le journal La Presse, je pense, qui avait lancé, pas un concours, mais ils avaient demandé aux gens qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme cahier spécial dans nos pages. Et puis, moi, j'avais lancé une idée et je leur avais envoyé, évidemment, ça n'a pas été retenu, parce que c'est une page qui se serait simplement appelée « Bonheur ». Et l'argument qu'on m'a servi, c'est « Horace, parce que c'est un peu cucu, c'est un peu quétaine, c'est un peu... » Alors que, et moi, j'aurais voulu que dans ces pages-là, il n'y ait justement que ce type d'articles qui sont loin, vous en conviendrez avec moi, d'être cucu et quétaine. Je veux dire, pour moi, le bonheur, c'est pas juste ce qui est rose et ce qui nous fait sourire et rire, c'est pas juste le domaine de l'humour, c'est aussi justement des actions menées par des gens comme ce monsieur Rabhi. Fait longtemps que je dis que ce sont des actions civiques qui vont sauver la planète, et puis je continue de le penser. On continue aussi, hein, je pense, de penser très très fort, mon ami François, qu'il est fort probable que la planète s'en sorte, mais l'humain, ce sera plus difficile, quoi.
Il faut garder espoir.
Bravo François de Beaulieu, qui est avec nous tous les lundis matins, qu'on se le dise. C'est bien important de venir écouter tous ses collaborateurs qui le grêle, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il verglace, sont là tous les jours, bénévolement, ce relais du lundi au jeudi, pour vous informer, pour vous instruire ou pour vous divertir. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Seille sur les ondes de Canal M et nous vous accompagnons jusqu'à midi.